très très vrai. J'ai mon langage philosophique. Vous avez votre langage, de votre propre expérience. Et je crois que c'est du reste ça qui est très bien ici. Et ça a toujours été un peu notre force et notre, je dirais, l'efficacité même de ces séminaires. C'est que il y a deux personnes, pour bien montrer que ce n'est pas une idéologie. Il y a le philosophe qui réfléchit et qui réfléchit avec sa liberté de philosophe. Et je crois qu'il faut toujours que le philosophe ait cette liberté du philosophe. Et puis il y a l'homme engagé directement dans son expérience. Une philosophie réaliste est une philosophie qui part de l'expérience, comme nous allons essayer de le comprendre. Nous faisons tous notre philosophie, notre expérience. Je vous donne un petit exemple, rien du tout, vous allez tout de suite comprendre. J'aime beaucoup le Carmel de Limoges. Au Carmel de Limoges, il y a beaucoup de prêtres ouvriers qui viennent toujours, parce que la mission France est là, très forte à Limoges, qui viennent se réunir un beau jour. Un leur prieur qui connaît un peu la perspective m'a dit, est-ce que ça ne vous dérange pas de prendre votre repas avec eux? Du tout, il n'y a aucune espèce de difficulté. Alors évidemment, quand je viens dominicain à côté d'eux, qui ne sont pas précisément en costume ecclésiastique, ça fait tout de suite un petit barrage. Bon, au bout de quelques minutes, si on arrive justement à retrouver la fin commune, on peut arriver à parler le même langage. Alors immédiatement, la question posée, qu'est-ce que vous faites? Je dis, j'enseigne la philosophie à Fribourg, à l'université de Fribourg. Quelle philosophie? Alors, il y a une bonne celle-là, mais il n'y a qu'une philosophie. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? Alors, j'ai renversé. C'est moi qui les ai questionnés. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? Pourquoi êtes-vous prêtre ouvrier? Vous êtes prêtre ouvrier pour connaître l'ouvrier. Et moi, je suis philosophe pour connaître l'homme. Et j'ai une supériorité sur vous, c'est que je suis un peu plus loin de vous. Vous restez l'ouvrier. Et je suis là pour vous rappeler l'homme. Et vous voyez, votre tort, c'est de rester l'ouvrier. Alors, à ce moment-là, vous savez, le dialogue a été fameux et merveilleux. Parce que, de fait, on a dit, nous faisons la philosophie de notre expérience. Vous voyez, votre tort, c'est de faire la philosophie uniquement d'une expérience. Or, il s'agit de regarder toutes les expériences humaines. Et l'homme n'est pas uniquement l'homme d'une expérience. Alors, il faudrait essayer de comprendre, alors j'ai développé, qu'est-ce que c'est que la philosophie. J'avais fait tout un petit cours, c'était merveilleux, je dirais ça. Alors, le résultat, ah, mais alors c'est très intéressant cette philosophie. J'ai dit, oui, c'est passionnant la philosophie. Bon, on ne nous a jamais enseigné ça. C'est pas étonnant qu'on ne nous a jamais enseigné ça, parce que vous n'étiez peut-être pas capable de recevoir un autre enseignement. Mais maintenant, vous êtes capable de recevoir un autre enseignement, parce que vous avez eu quand même le désir de retrouver une expérience humaine, l'expérience de l'ouvrier, l'expérience du travailleur. Ben, c'est très important. On entre dans la philosophie par tel ou tel moyen. Il n'y a pas qu'une seule entrée dans la philosophie. C'est la différence avec les idéologies. C'est que les idéologies, nous allons voir, il y a une entrée. Et cette entrée, ce qui est terrible, c'est quand on est très dedans, on n'en sort jamais. On reste toujours dans cette unidimensionnalité. Et c'est le propre de l'idéologie. Et c'est pour ça qu'on doit briser ces idéologies pour comprendre la complexité de l'homme qui, de fait, est nécessairement un homme de multiples expériences. C'est la grandeur de l'homme et c'est la difficulté de l'homme. C'est qu'au fond, l'homme a une unité qu'il cherche toujours, qu'il découvre progressivement, mais en respectant cette complexité. Et je crois que c'est l'avantage, vous voyez, que nous avons ici, c'est que, de fait, je n'ai pas votre expérience, hein. Je ne prétends pas du tout l'avoir. Je ne suis pas un prêtre ouvrier, je ne suis pas un prêtre patron. Mais j'ai une expérience de philosophe, d'enseignant la philosophie. Et ce qui me frappe énormément, c'est que actuellement, je suis bien plus proche de mes étudiants que je l'étais quand j'avais 30 ans et que je suis arrivé à Fribourg. Quand je suis arrivé à Fribourg en 45, ben, j'étais, je me disais, mais oui, vous êtes jeune, donc vous pouvez être très proche de vos étudiants. Pas du tout. J'avais l'impression que j'étais très loin d'eux, d'une certaine manière. Actuellement, j'ai l'impression d'être très proche d'eux. Beaucoup plus proche. Je sais bien, il y a l'alliance des petits-fils et des grands-pères. N'est-ce pas? C'est une alliance qui a l'avance avantage, et quand on est père, on doit exercer l'autorité avec beaucoup plus de difficulté que quand on est grand-père. Quand on est grand-père, on se dit, oh oui, il y en a un autre qui exerce l'autorité. Et ça fait une proximité, mais ce qui me frappe énormément, et là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on m'a beaucoup intéressé parce qu'on pourrait faire un autre aspect, tout à fait d'une autre expérience, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ont une avidité extraordinaire qui me frappe énormément. Une avidité de réalisme, ils redécouvrent un réalisme. Ça, je crois que nous allons revoir quelque chose d'extrêmement intéressant et important, dans la mesure où, évidemment, où ils ne sont pas déjà pris par les idéologies. Parce que dans la mesure où ils sont pris par les idéologies, c'est affolant. Bon, j'ai des gens qui sont pris par l'idéologie nietzschéenne. Chez les jeunes intellectuels, c'est l'idéologie nietzschéenne qui prime. Ce n'est plus l'idéologie marxiste. L'idéologie marxiste est passée chez les jeunes. Chez les jeunes, qui poussent. C'est l'idéologie nietzschéenne qui est, je crois, beaucoup plus dangereuse d'une certaine manière, mais au fond beaucoup plus intéressante, elle est plus intelligente. Nietzsche est plus intelligent que Marx, comme intelligence de l'homme. C'est un autre débat. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire passer de cette idéologie progressivement, lentement. Ça met du temps. On a dit tout à l'heure, le facteur humain met du temps. Et je crois que c'est ça qui est la très grosse difficulté pour nous. C'est que nous vivons dans un facteur de rapidité scientifique, de rapidité technique, de rapidité du monde d'aujourd'hui, de l'efficacité, qui veut une efficacité extrêmement rapide. Et l'homme reste à son rythme vital. Et qu'il est au fond blessé dans ce monde. Nous sommes tous des blessés, beaucoup plus qu'on ne pense. Et on ne veut pas regarder ces blessures. Et c'est peut-être ça qu'on doit regarder en premier lieu. Moi, je crois que c'est ça que nous devons regarder et que nous regarderons. Nous sommes tous, je crois, chacun d'entre nous, nous sommes tous pris par un engrenage qui fait que cet engrenage nous blesse. On parlait des patrons, ce sont les plus blessés, je crois, aujourd'hui. Ce sont les plus blessés et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas regarder leurs blessures. Excusez-moi, le dimanche, il y avait la Samaritaine du Christ. J'aime énormément cet évangile. Parce que je crois que Jésus est un psychanalyste, mais supra-psychanalyste, merveilleux. En un rien de temps, il enlève les 5 pansements de la Samaritaine. Je crois que le philosophe, s'il est un vrai philosophe, doit arriver à montrer à l'homme tous ces pansements qu'il a et qu'il ne veut pas regarder. Pour remettre l'homme en face de la vérité, en face de ce qu'il est. La philosophie, c'est terrible, hein? C'est terrible comme exigence. Connais-toi toi-même. Toute notre philosophie occidentale a commencé par Socrate. Connais-toi toi-même. Et au fond, avoir le courage de se regarder soi-même pour redécouvrir sa finalité. C'est ce qu'on va voir, ça, progressivement, c'est le gros problème qu'on va essayer de faire. Alors évidemment, c'est pas commode, hein, parce que nous avons tous 5 femmes, d'accord ? Mais elles ne sont pas des femmes. Ouais. Mais nous avons tous 5 femmes, c'est-à-dire nous avons tous des alliances qui ne sont pas de vraies alliances. Nous avons été forcés de faire des compromis. Nous avons été... On doit en faire, c'est impossible autrement. C'est impossible autrement, je crois. On est bien obligé. Mais... on les appelle des compromis. Tant qu'on les appelle des compromis, on n'est pas malade. Le jour où on ne les appelle pas des compromis, on devient malade. Parce qu'on croit que c'est normal. Et alors on a perdu le sens du réel. Ce qui me semble la chose la plus terrible dans les idéologies, c'est que les idéologies nous font croire que c'est la réalité. Nous avons tous nos petites idéologies. Mais tous, c'est de comprendre que ce sont des petites idéologies. Et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est difficile à saisir, c'est ce réalisme de l'homme. Redécouvrir l'homme dans notre monde d'aujourd'hui. Pour moi, c'est comme ça que je définis le philosophe. Le philosophe doit regarder l'homme. Il doit sauver l'homme. Il sait bien qu'il ne sauve pas l'homme, hein, parce que s'il veut sauver l'homme, si on est chrétien, on sait qu'il n'y a que le Christ qui sauve l'homme. Mais il doit faire comprendre à l'homme qu'il a besoin d'être sauvé. Ah, il ne va pas prêcher, hein. Le philosophe ne prêche pas, croyez bien, dans mes cours, je ne prêche pas. Je n'hésite pas de montrer qui je suis pour mieux montrer la différence entre le point de vue de la foi et le point de vue de la philosophie. La foi nous sauve, la philosophie ne nous sauve pas. Mais la philosophie nous donne la lucidité. Je crois que c'est la seule chose que la philosophie peut donner dans notre monde d'aujourd'hui. Être lucide. Être lucide sur ce que nous sommes, sur la complexité de ce que nous sommes, la complexité de nos engagements, les compromis qu'on fait fatalement. Un homme qui n'accepte pas certains compromis à certains moments, très vite devient un monolithe. On est bien obligé d'accepter des compromis, vous savez, je sais ce que c'est de vivre dans un monde ecclésiastique. C'est pas drôle non plus. C'est pas une entreprise, mais c'est une autre super entreprise. C'est un super marché de premier ordre. N'est-ce pas? Il est extraordinaire. C'est pas commode de vivre dans un monde. Bon, c'est pas commode de garder une lucidité dans un monde très complexe. C'est nécessaire. Et je ne dis pas que je fais des compromis parce que je me reproche d'être trop autonome, trop indépendant, d'être un loup. J'aime énormément la fable de La Fontaine, le loup et le chien. J'aime énormément cette fable de La Fontaine. Je crois que tout grand philosophe, tout homme doit être au fond de lui-même un loup. Il est un chien parce qu'il est forcément lié à des quantités de choses, mais s'il garde en lui le loup, c'est-à-dire qu'il garde en lui cette soif d'autonomie profonde et qui nous est donnée par la finalité. On est autonome, comme nous le verrons. Dans la mesure même, nous avons une finalité. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de danger d'accepter d'avoir une ficelle sur le cou, n'est-ce pas? Parce qu'on est bien obligé d'avoir la nourriture de tous les jours. On ne peut pas briser. Briser avec ce que nous vivons aujourd'hui, mais c'est faux, c'est encore une autre idéologie. C'est l'idéologie d'anarchistes. Les anarchistes sont des idéologues. Ce sont des idéologues qui sont nietzschéens. Ils sont nietzschéens. Au fond, être nietzschéen dans le monde d'aujourd'hui, c'est d'être anarchiste. C'est de briser avec tout ce qui existe avant moi. Et de vouloir briser tout ce qui existe avant moi. C'était la grande idéologie en 68, on en a rappelé tout à l'heure. Et elle demeure. Les anarchistes aujourd'hui, on comprend très bien qu'un jeune désire être anarchiste. Alors, je vais entrer dans un problème très vaste. Je m'excuse, hein. Mais je crois que ce problème, et c'est pas mauvais, vous savez, l'ordre qu'on a pris, on l'a modifié. Au départ, on appelait pop histoire, et puis je me suis dit, il vaut mieux prendre cet ordre-là. C'est-à-dire de commencer par une espèce de grande vision. Le philosophe doit aujourd'hui, de temps en temps, rappeler une grande vision synthétique. Croyez que j'ai beaucoup réfléchi, parce que c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup. De voir comment l'homme d'aujourd'hui est meurtri par les idéologies. Depuis 150 ans, alors là ce n'est pas 30 ans, c'est 150 ans, vous savez, les idées font leur chemin lentement. Mais les idées, on a dit, mènent le monde. Je crois que c'est vrai. Et ce qui est terrible, c'est que les idées sont devenues des idéologies. Ce qui est terrible, quand on pense à l'idéologie, ce que ça veut dire, hein, c'est la réflexion idée. Logos. Le logos, c'est le discours sur les idées. Le discours sur les idées, c'est quoi? C'est oublier l'homme et ne regarder que les idées de l'homme. Et c'est ce qui me semble que dans toutes les idéologies, l'homme est oublié. Il y a un oubli de l'homme dans les idéologies. L'homme n'est plus présent. Et c'est en ce sens-là que les idéologies sont l'adversaire numéro un de ce qu'est une vraie philosophie. Le philosophe, c'est l'ami de la sagesse, donc c'est l'ami de l'homme. Le vrai philosophe, c'est l'ami de l'homme. Et le vrai philosophe, c'est d'essayer de susciter dans chaque homme ce que lui, il oublie. Parce que tous les hommes d'aujourd'hui, tous, sont saisis par les idéologies. On pourrait dire que la vraie philosophie d'aujourd'hui, c'est de chasser les idéologies. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'avait invité à Genève, des amis qui m'avaient invité, qui m'avaient dit, enfin, vous allez faire une conférence, dites-nous l'idéologie à laquelle vous appartenez pour l'an 2000. Quelle est l'idéologie que vous prévoyez pour l'an 2000? Je leur ai laissé aller jusqu'au bout du panneau, c'est-à-dire d'afficher cette conférence. J'ai rien dit, j'ai dit, mais très bien. Alors j'ai commencé par dire, eh bien, je n'ai pas d'idéologie pour l'an 2000. Parce que je ne veux pas en avoir. Si j'en avais eu, elle serait fausse. Mais je lutte contre toutes les idéologies. Alors j'ai vu toutes les têtes, évidemment, c'était très amusant de voir. J'ai essayé d'expliquer après pourquoi l'idéologie continue. Et l'idéologie ne sait pas pourquoi elle continue. C'est ce qu'il y a de mieux. Elle continue parce qu'elle étudie l'idéologie. Une idéologie, une fois qu'on a commencé, c'est un discours de l'idée qui doit progresser indéfiniment. Et c'est ça, au fond, la dialectique. La dialectique est née à l'intérieur des idéologies. Le père de la dialectique pour nous, c'est Hegel. Et c'est le père de toutes les idéologies. Je crois que toutes les idéologies sont plus ou moins idéologies. Je sais que si on regarde attentivement, on voit bien qu'il y a deux sources des idéologies. Il y a la philosophie hegelienne, qui est la grande philosophie de la dialectique. On l'a dit, la philosophie aristotélicienne est restée pendant des années et des années le grand génie de notre philosophie occidentale. Et Aristote a été délogé par Hegel. Mais Hegel dit ceci, et c'est ma très grande force, on ne peut être vraiment un vrai dialecticien que si on est un aristotélicien. C'est merveilleux. Hegel dit, le seul qui forme, c'est Aristote. C'est pour ça que quand je suis en face d'un hegelien, je dis, est-ce que vous connaissez Aristote? Il ne le connaît pas, il dit, vous êtes un faux idéologue, vous êtes un faux hegelien, vous ne savez rien du tout. Puisqu'au fond, il fallait ça. C'est très curieux, c'est très très curieux cette phrase de Hegel. J'aime beaucoup que seul Aristote forme. Aristote, c'est le philosophe de l'expérience. Platon, c'est le philosophe des idées. Et Platon est avant Aristote, nous le savons. Mais Platon a eu beaucoup plus d'influence qu'Aristote. Un philosophe moderne, Heidegger, de toute la philosophie occidentale, n'est qu'une glose marginale du platonisme. Ce qui est vrai, ce qui est très vrai. Donc l'idéologie a fleuri d'une manière invraisemblable dans notre philosophie occidentale. On peut dire que depuis 150 ans, on est enveloppé d'idéologie. On vous ai parlé tout à l'heure, appel à cette nouvelle philosophie de droite, ce grand mouvement aujourd'hui, qui est intéressant, auquel il faut absolument être attentif. Je crois qu'on doit être très attentif à ça. C'est encore une idéologie. Alors, on va essayer de définir ce que c'est que l'idéologie, puis après je vais regarder la diversité des idéologies. Je crois que c'est important pour avoir un panorama. Enfin, je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais essayer de comprendre comment l'homme est meurtri par toutes ces idéologies. Et je crois que c'est important de regarder l'ensemble de ces idéologies. Ça m'intéresse beaucoup au point de vue philosophique de regarder cet ensemble. Ce qu'on ne voit pas d'habitude, parce que d'habitude on voit une idéologie, une autre idéologie. Mais c'est important de regarder l'ensemble. Je crois que nous sommes ici suffisamment amis pour pouvoir regarder cet ensemble. Donc l'idéologie part d'une idée, et non pas de l'expérience. L'idée, c'est quelque chose que nous possédons. Que nous possédons au-dedans de nous-mêmes. C'est un avoir. C'est un avoir. On possède des idées. Chacun d'entre nous, nous possédons des idées. On part de ces idées et on développe ces idées pour elles-mêmes. Et le développement de l'idée va être progressif. Et c'est pour ça que c'est propre de la dialectique. La dialectique, c'est de faire que l'idée se progresse elle-même. On n'a pas besoin, vous voyez, d'avoir une référence à autre chose qu'à l'idée. L'idée, évidemment, elle est née d'autre chose. C'est bien évident, nous n'avons pas des idées innées. Il y a d'autres choses. Nos idées sont venues progressivement, c'est très difficile de savoir l'origine de nos idées. Mais on part de ces idées. Et partant de ces idées, on veut le progrès de ces idées. Et ces idées deviennent l'absolu. Et la dialectique devient l'absolu. La dialectique devient vraiment ce qui, dans notre vie, est la norme de tout, la mesure de tout. Pas de référence à l'expérience. L'expérience doit suivre l'idéologie. Et si vous faites référence à l'expérience, vous devenez un mauvais idéologue et on vous dit, vous perdez du temps. Vous savez bien ce qui s'est passé avec Lefebvre au point de vue du marxisme. C'est que Lefebvre s'est mis à réfléchir sur la réalité 10 ans après la guerre. Et on lui a dit, vous n'êtes plus marxiste. C'est extraordinaire. Est-ce que vous avez réfléchi sur la réalité? Vous avez perdu du temps. Vous perdez du temps. Réfléchir sur l'homme, c'est une perte de temps. Pour un idéologue, ce que nous faisons, c'est une perte de temps. Nous allons directement contre l'idéologie en essayant de revenir à l'expérience et en essayant de réfléchir sur nos expériences. Alors l'idéologie, donc, c'est partir de l'idée, et je dis c'est faux, parce que l'idée n'est pas première dans notre vie humaine. L'idée n'est pas première. Il y a quelque chose qui est avant nos idées, c'est nos expériences. Je sais très bien qu'on interprète ces expériences en fonction de nos idées. N'est-ce pas ? On interprète nos expériences en fonction de notre affectivité. On interprète nos expériences en fonction de notre imagination. C'est très évident. Il suffit de regarder un accident d'auto pour voir immédiatement toutes les interprétations. Ça, c'est très significatif. Un accident d'auto, c'est une expérience, c'est évident. Et cette expérience, elle est interprétée de multiples manières. Le spectateur, celui qui conduit, celui qui est en face, n'est-ce pas ? Il y a toujours quelqu'un qui a attaqué le premier. Ça ne peut pas être autrement. Et toute l'astuce, c'est de savoir le premier qui a attaqué celui le premier qui est en fausse. Mais il y a toujours une interprétation. Mais on peut avoir un souci. C'est propre, je crois, à l'intelligence humaine. Elle est autocritique, l'intelligence humaine. Tandis que dans l'idéologie, on supprime ce caractère d'autocritique. Et supprimant ce caractère d'autocritique, on se laisse prendre et on devient des grands naïfs. C'est pour ça que les idéologies n'engendrent que des enfants. On a dit tout à l'heure, c'est le grand drame d'aujourd'hui, c'est vrai, c'est le grand drame d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'hommes qui sont capables d'être des adultes et de prendre des responsabilités. L'idéologie nous fait croire que nous ne sommes plus responsables. On devient des enfants, on devient partie du système, on devient un moment du système. Et c'est pour ça que l'idéologie développe un certain aspect de l'intelligence, c'est bien évident. Il développe l'aspect rationnel et logique de notre intelligence. Mais il tue le contact réel. Il tue aussi notre volonté et notre capacité d'aimer. C'est ce qui me frappe beaucoup. Il n'y a pas d'idéologie de l'amour. Toutes les idéologies mettent un primat de l'idée. Et l'amour doit être relatif à ça. Alors, il y a une idéologie de l'amour, si vous voulez, en ce sens qu'il y a l'idée au-dessus, mais c'est donc plus une philosophie de l'amour. Et nous le verrons, ça, parce que c'est important. Donc, je crois que le propre des idéologies, c'est toujours de mettre ce primat absolu sur l'idée sans revenir à la source. Vous savez la manière dont Peggy définit la philosophie. C'est une définition admirable. Si Peggy était l'homme de nous, il nous dirait ça d'une façon extraordinaire. Peggy définit admirablement la philosophie. J'aime beaucoup cette définition parce qu'elle n'est pas donnée par un philosophe. Elle est donnée par quelqu'un qui a simplement réfléchi. Peggy dit « Tout le monde descend le fleuve. » C'est facile de descendre le fleuve. Même les cadavres descendent le fleuve. Et alors, à la manière de Peggy, c'est dit de multiples manières. Tout le monde, et les cadavres descendent plus vite le fleuve que les autres. On fait comme tout le monde, on descend le fleuve. Spiritualité de la planche. Le philosophe, c'est celui qui veut remonter à la source. C'est difficile de remonter à la source. C'est pénible de remonter à la source. Il faut quelquefois accepter d'être seul. Et c'est vrai. Je crois que c'est une très belle définition de la philosophie. Remonter à la source. Remonter à la source pour l'homme. L'homme, c'est la source d'une certaine manière. C'est une première source. Pour nous, le philosophe, il fait de la philosophie pour l'homme, serviteur de l'homme. Et c'est pour ça que la philosophie n'est pas une spécialité. La philosophie, c'est tout simplement la réflexion de l'homme sur l'homme. C'est pour ça qu'un vrai philosophe, il est philosophe qu'à partir d'un certain âge. C'est pour ça que d'une certaine manière, c'est pas mauvais d'avoir supprimé la philosophie dans les programmes. D'une certaine manière, il faudrait la remettre alors à 45 ans. Il faudrait permettre alors vraiment de faire de la philosophie à 45 ans, alors des écoles de sagesse. Des écoles où on réfléchit, où chacun dans ses expériences met ça en commun, et puis dit, mais essayons de découvrir ce que c'est que l'homme. Le philosophe remonte à la source. La source, c'est l'homme. Et en dernier lieu, c'est de découvrir que l'homme n'est pas source première, et le philosophe doit découvrir qu'il y a nécessairement quelque chose de plus profond que cette source. Ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Le philosophe vrai doit être capable d'ouvrir l'homme à plus que l'homme. Quand on n'ouvre pas l'homme à plus que l'homme, on fait le surhomme. C'est le dernier produit. On fait le surhomme, Nietzsche, le surhomme. C'est très curieux ça. Tellement l'homme a besoin de dépassement. Tellement l'homme a besoin d'aller plus loin que l'homme. Il doit découvrir ses dimensions et découvrir autre chose. Alors le philosophe ne nomme pas Dieu. Ce sont les traditions religieuses qui donnent Dieu. C'est la révélation qui donne Dieu. Le philosophe, il dit, il existe nécessairement un absolu au-delà de l'homme. Il existe nécessairement une source qui va plus loin que l'homme. Mais cette source ne supprime pas que l'homme est source. L'homme est source. Et c'est pour ça que le philosophe s'arrête à l'homme en premier lieu. Et c'est à partir de l'homme qu'il va montrer qu'il y a une autre source. Ce que nous ne verrons pas. Je le dis tout de suite pour que vous compreniez que de fait, le philosophe est en quête. C'est un sourcier. Il est en quête de cette source première qui est l'homme et de la source au-delà de l'homme qui est ce que les traditions religieuses appellent le Créateur. Alors, regardons, après avoir montré ces deux grands aspects, l'idéologie et l'ami de la sagesse, le philosophe, philosophia, l'ami de la sagesse. L'ami de la sagesse, c'est l'ami de l'homme. L'ami de la sagesse, c'est la recherche pour l'homme. Donc le philosophe est au service de l'homme, il est pour l'homme. Sa philosophie est tout entière tournée vers l'homme. Et elle est pour l'homme. Le philosophe sait que l'homme vaut plus que la philosophie. L'idéologue pense toujours que son idéologie est plus que l'homme. Et c'est en ce sens-là qu'il fait mal à l'homme. Et que toute idéologie blesse l'homme. Parce qu'il rapetisse l'homme. Il ne fait pas comprendre que l'homme a en lui un absolu, une source multiple du reste. C'est la multiplicité de cette source, nous aurons l'occasion de le voir. En voyant la personne humaine, on voit ce qu'est l'homme comme source. C'est en définitive, c'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Donc, voyez là, je crois que c'est très important de saisir cette diversité entre l'idéologie qui veut dominer l'homme et le point de vue de la philosophie qui est au service de l'homme. Là, on est là en présence de deux aspects très très différents. Cependant, toute idéologie va impliquer une anthropologie, c'est-à-dire une certaine vision de l'homme. Parce que ça, on ne peut pas le cacher, on veut l'éloigner le plus possible, mais l'homme est quand même présent. C'est évident, parce que c'est l'homme qui est source de ces idéologies. Mais dans les idéologies, je ne regarde pas la source de ces idéologies, je regarde l'idéologie elle-même. C'est là une très grosse différence. Et c'est là où le philosophe a toujours attaqué les idéologues. En disant, mais vous êtes bon, vous ne regardez que le fruit. Vous oubliez de regarder la source. Alors, si la source est empoisonnée, il faut quand même essayer de comprendre vos idéologies. Alors je nomme les 8 grandes idéologies qui sont nées depuis 150 ans. Je crois qu'il y en a 8. C'est un petit travail que j'ai fait personnellement, parce que ça m'intéresse. C'est mon métier. Détecter les diverses formes d'idéologie. C'est dit qu'il faut les détecter. Puis on verra ensemble s'il y en a d'autres, j'ai envie de dire. Moi je les prends au plan philosophique, comprenez bien. Parce qu'il y a des quantités de petits rameaux. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à travers ces diverses idéologies, vous avez une vision de l'homme qui blesse l'homme, qui mutile l'homme. Qui fait que l'homme n'est plus vu dans toute sa dimension, il est vu dans une seule dimension. Alors, la première idéologie, la plus fondamentale, qui n'a pas de couleur politique, c'est pour ça que j'en ai en premier lieu au point de vue philosophique, elle n'a pas de couleur politique, ce qui est extraordinaire, c'est le positivisme. C'est la première idéologie. Vous voyez bien ce que représente le positivisme. Le positivisme, surtout, c'est fort. Évidemment, l'auteur du positivisme, c'est Auguste Comte, mais il renaît tout le temps sous des formes multiples. Et je crois que c'est le plus fondamental. D'une certaine manière, il est parallèle à Hegel, c'est très, très, très curieux. Et il est quand même dans la dialectique. Mais il est né en France. C'est curieux aussi, ça. Alors, il y a quelque chose de très intéressant pour voir d'où naissent ces diverses idéologies. Et comment ces idéologies naissent dans des pays différents. L'idéologie du positivisme, c'est le plus propre, c'est l'idéologie la plus propre. Elle n'est pas politique. Alors elle semble merveilleuse, on fait de l'homme un serviteur des hommes. C'est ça le positivisme. On supprime Dieu, c'est bien évident, toutes ces idéologies, toutes, suppriment l'absolu. Parce qu'une idéologie serait morte. Si j'accepte Dieu, je ne peux pas accepter l'idéologue. C'est impossible. C'est impossible. L'idéologie mesure l'homme et mesure Dieu. Et donc le supprimer. L'idée est au-dessus. L'idéologie positiviste, c'est considérer que la connaissance scientifique est la seule connaissance véritable. Or, la connaissance scientifique mesure les réalités. La connaissance scientifique, l'homme la possède. Et c'est le développement de la science qui doit sauver l'homme. Le positivisme se présente comme vraiment la grande source de salut. Alors vous avez un positivisme partout, ça s'introduit même dans la théologie. Le grand mal de la théologie d'aujourd'hui, c'est le positivisme qui s'est introduit et qui s'introduit partout. Alors vous voyez que le positivisme, tout de suite, écarte la métaphysique. La philosophie, dans ce qu'elle a de plus profond, ça n'existe pas, parce qu'il n'y a que le comment. Il n'y a plus le pourquoi. Auguste Comte dit ça avec naïveté. C'est bon de temps en temps de relire Auguste Comte aujourd'hui, parce que c'est dit avec une telle naïveté. C'est prodigieux. Aujourd'hui, on n'oserait plus, on mettrait des gants. Mais Auguste Comte, parce qu'il découvre ça, alors il le dit avec une telle naïveté. Moi, j'aime beaucoup de relire Auguste Comte, parce que je me dis, mais on est en plein dedans. Il est prophète, cet homme-là. Il a dit ça. Il ne faut surtout plus chercher les pourquoi. Le pourquoi de la finalité. La grande lutte du positivisme d'Auguste Comte, c'est le pourquoi de la finalité. Il faut uniquement chercher les comment. Et la science nous permet de découvrir les comment. Et le comment, ce sont les lois. Alors, il y a les lois. Les lois deviennent l'absolu. Les lois scientifiques, c'est absolu. Ça, c'est ça. Relativiser les lois scientifiques, c'est le plus grand des crimes. Alors, il y a les lois. Les lois deviennent l'absolu. Les lois scientifiques, c'est absolu. Ça, c'est ça. Relativiser les lois scientifiques, c'est le plus grand des crimes. Relativiser l'homme, c'est le seul. C'est très connu. L'homme a toujours besoin d'un absolu. Il le met là où il ne met pas de temps en temps. Mais il faut le mettre là où il est. Et en fond, c'est là la grande chose. Le positivisme, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fondamental. Et il y a une dialectique positiviste, c'est bien évident. La dialectique positiviste, elle est à l'égard, justement, de l'histoire de l'humanité. Et c'est de le dire, les âges de l'histoire de l'humanité. Et l'histoire des âges de l'humanité, il y a un âge théologique, il y a un âge métaphysique, il y a un âge positiviste. Alors vous retrouvez très très nettement, l'âge théologique, c'est l'enfant, parce qu'on a un père qui est Dieu. L'âge métaphysique, c'est l'adolescent. Et l'âge positiviste, c'est l'être. C'est très très bien. C'est celui qui vraiment est maître de lui-même et domine. Dominer le monde. Dominer le monde. Et le positivisme, alors, je ne regarde pas où on trouverait le positivisme aujourd'hui, je crois qu'il est à l'état latent. Positivisme, il est à l'état latent. C'est très rare que vous rencontrez un positiviste qui fait vraiment état de positivisme. Mais dès que vous l'entendez parler, vous dites, ah mais vous l'êtes. Vous l'êtes. On voit bien ça. Il n'a pas de couleur, je vous dis. Mais de fait, il donne un style de vie, une manière d'être. Et il est dit dans le positivisme, être serviteur de l'humanité. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. De l'humanité, pas de l'homme. C'est quelque chose d'abstrait. C'est que l'humanité, je la domine et je dois la façonner. Et je dois en faire ce qu'elle veut. Ce qu'on voit aujourd'hui, vous voyez le positivisme dans la science biologique et les manipulations de ce qu'on présente, c'est du positivisme pur. Et un positivisme pur, quand il est dedans, mais il ne voit plus ses erreurs. Comme hier au soir, je voyais quelqu'un qui était en plein danger, tempêté violemment contre lui. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que vous... Mais je dis tout simplement, parce que je défends l'homme. Mais vous n'avez pas le droit de défendre l'homme. Non, je me défends, moi. Je me défends. Vous prétendez défendre l'humanité de demain, mais vous ne savez pas ce que sera l'humanité de demain. Vous voyez, le positivisme, on le retrouve au point de vue théologique. Je vous donne un tout petit exemple, vous allez tout de suite comprendre. Sitôt Vatican II, on voyait les positivistes théologiens qui étaient pour Vatican III. Et pour Vatican III, c'est-à-dire d'aller vers l'attitude de demain. Vous ne regardez jamais ce qu'il y a actuellement, parce que ce qu'il y a actuellement, vous êtes bien obligé de revenir à l'expérience. Vous ne regardez jamais, mais vous regardez tout le temps demain. Demain, l'humanité, c'est pour ça, serviteur de l'humanité, c'est extrêmement significatif. C'est pas serviteur des hommes, serviteur de l'humanité, de cette humanité qui est conduite et téléguidée par la science. Monod était un positiviste remarquable. Je connaissais des amis de Monod qui l'aimaient beaucoup en tant que biologiste. Je me souviens très bien, petit merveilleux. Avait été dans les séminaires de Monod, et Monod se prenait la sélection de ses séminaires pour en faire le futur prix Nobel, parce que la gloire reviendrait sur lui. Alors, c'était extrêmement significatif. Quand il a assisté à la conférence de Monod au Collège de France, il m'a dit, les écailles sont tombées de mes yeux. Il dit, comment un homme si intelligent peut-il être si bête? Tout le monde l'avait dit, moi je ne pouvais pas. Dès qu'il sortait de son domaine biologique, il n'y avait plus rien. C'est ce que Monod avait dit dans les rencontres internationales à Genève. Élever un enfant, éduquer un enfant ou éduquer un chat, c'est la même chose. Il l'a dit, c'est pas moi qui l'invente, parce qu'il faut inventer un truc comme ça. C'est pas si commode d'inventer un truc comme ça. Il faut être vraiment saisi par une idéologie pour arriver à ne pas regarder le réel et regarder le réel à travers un prisme. Donc des gens extraordinairement intelligents dans leur spécialité peuvent devenir l'idéologie positiviste. Je la dis parce qu'elle est fondamentale. Elle est ce qui unit l'Est et l'Ouest. Vous savez que le marxisme est devenu positivisme avec Lénine. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Donc, il y a à l'intérieur du marxisme une alliance avec le positivisme. Et le positivisme, on sait qu'il règne dans certains pays que nous connaissons bien, et qui sont des pays où le positivisme règne pleinement et totalement. Et là, ce qui fait des alliances secrètes, c'est ça qui est très curieux. Ce sont des alliances d'idéologie qu'on nomme pas. C'est un a priori constant. Donc, premièrement, ça c'est fondamental pour moi, arriver à détecter ça, parce que nous devons le détecter. Si nous voulons sortir, ou bien si on est trop dedans, alors c'est justement, il faut en sortir. Parce que tant qu'on est dans le positivisme, vous restez dépendant d'une idéologie, et vous serez pris nécessairement à ces exigences. Deuxième idéologie, alors celle-là, elle est liée du point de vue politique. C'est le marxisme, je ne vais pas vous en parler, vous le connaissez très bien, mieux que moi, parce que vous êtes dans la lutte constante en face du marxisme, vous voyez bien ce que c'est. Je reviendrai tout à l'heure, je les nomme simplement. Le marxisme, c'est quelque chose de... C'est l'idéologie autour du travail, de la praxis. C'est la praxis qui a donné naissance à cette idéologie. Bon, si je veux saisir ce que, au point de vue philosophique, c'est la praxis, où j'identifie l'homme à la praxis, hein. L'homme disparaît, c'est le travailleur. Il n'y a plus que le travailleur. Ça, vous voyez ça admirablement chez certains prêtres ouvriers qui, sans faire attention, se sont laissés entièrement marxiser. Ils ont regardé l'ouvrier et au bout d'un certain temps, ils ne voient plus que le travailleur. Et ils ramènent l'homme au travailleur. C'est ce que je dis. Il dit à ces bons prêtres ouvriers, moi je regarde l'homme, vous regardez le travailleur. Faites attention de ne pas tomber dans le marxisme. Parce qu'au fond, c'est l'idéologie du marxisme, c'est ramener l'homme uniquement au travailleur. La société des travailleurs. Et au bout d'un certain temps, vous tuez l'homme. Le marxisme tue l'homme, forcément. Vous avez troisième forme d'idéologie, le freudisme. Le freudisme est une idéologie. Parce que le freudisme, au point de départ, a regardé certains cas particuliers. C'est vrai, Freud, en tant que médecin, est merveilleux. Je crois, il aimait beaucoup ses malades. Il était très humain. Et puis petit à petit, il s'est laissé prendre par une idéologie. Un dialogue avec des freudiens à Paris pendant 15 ans. Ça m'a beaucoup intéressé. C'est eux qui sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher en disant on va faire un dialogue, si vous voulez, entre Aristote et Freud. Vous, vous êtes aristotélicien, c'est pas aristotélicien, en ce sens que je considère que la philosophie d'Aristote est une philosophie réaliste. Alors, je suis aristotélicien, c'est déjà, je ne répète pas Aristote, c'est bien évident. Mais j'essaie de comprendre, c'est un bonhomme qui a été prodigieusement intelligent. On va faire un dialogue, puisque nous devons nous entendre, parce que vous êtes réaliste et que vous respectez l'expérience, nous, nous respectons l'expérience. Puisque nous faisons attention à l'expérience. C'est des hommes d'expérience, les Freudiens, d'une certaine manière. Alors, nous avions dit, pour ne pas être uniquement entre Freudiens, et puis moi j'étais avec un ami qui était philosophe, ici M. Moignon, on était ensemble, on était deux philosophes contre deux marques, contre pas mal, mais c'est pas comme pas beaucoup. Alors on a dit, on va amener nos amis, ce sera un peu plus. On est comme ça, un petit séminaire d'une vingtaine, mais les amis étaient derrière. Alors, première chose, on était une vingtaine, c'est très bien, très sympathique comme Puma. On s'était dit, hein, parce qu'autrement ça ne va pas. On ira jusqu'au bout de la discussion, même s'il faut s'en gueuler, ça n'a aucune espèce d'importance, on ira jusqu'au bout, autrement ça ne sert à rien. Dès le premier petit séminaire, c'est le soir, ça peut terminer un moment, immédiatement que les amis sont partis, je suis resté avec quelques Freudiens, médecins, psychanalystes, à Paris. On dit, ah, oh! Votre ami un tel, oh, il aurait besoin d'une petite analyse. Je dis quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Nous amènerons nos amis, mais je ne vous amène pas des clients. C'est bien. Vous ne regardez plus les hommes que sous le point de vue de la maladie. Ça m'a tout de suite ouvert les yeux. Je dis l'expérience, mais que c'est qu'expérience humaine. On apporte bien des amis, quoi. Vous êtes incapable d'avoir une expérience humaine. Vous ne pouvez plus avoir une expérience humaine. Vous avez l'expérience clinique. Une fois que j'ai compris ça, j'ai compris l'idée. Tout, c'était l'expérience clinique. Il ne regardait plus que l'homme en tant qu'il était un client, qui venait dire qu'il était un malade. Alors, à partir de là, vous comprenez ce que représente le freudisme, qui ne voit plus que les hommes malades. Et ils sont tellement puissants que si on est dans la main d'un freudien, il faut bien tenir le coup, vous savez. Parce qu'au bout d'un certain temps, voilà, j'aurais pu dire, mais moi aussi je suis malade. Il fallait une certaine agressivité. Du reste, c'est bon avec les freudiens d'avoir l'agressivité. Il faut avoir l'agressivité. Ils en ont peur. Le plus grand, c'est ça, vraiment la décoration que j'ai eue au bout de 15 ans, c'est que vous dites, vous avez raté votre métier, vous auriez dû être psychanalyste. Ah, j'ai bien les très bonnes, alors heureusement que j'ai choisi mieux. Mais c'était très intéressant, c'était merveilleux, ça m'a beaucoup appris, parce que de fait, c'est comme ça, hein. La dialectique, il faut entrer dedans pour comprendre ce que c'est. J'avais lu Freud, j'avais lu les livres, j'avais rien compris. J'avais vu ça de l'extérieur, j'avais tout de suite vu les failles philosophiques. J'ai dit qu'on entre dedans. Petite. Il commence par l'expérience, ce sont des hommes d'expérience, mais l'expérience clinique, ce n'est pas l'expérience humaine. C'est déjà une idée. Mais c'est l'idée la plus proche, d'une certaine manière, de la réalité. Ça semble commencer. Vous savez bien comment Freud a commencé toutes ses études. C'est très très beau, du reste, quand il était à Sainte-Anne à Paris et qu'il a commencé à avoir ses malades, qu'on soit dit à ce moment-là d'une manière extrêmement brutale. C'était vraiment d'une façon très. Il a simplement vu que ces hommes avaient un petit vocabulaire extrêmement réduit. C'est vrai, quand vous voyez des malades, au point de vue, c'est même le signe de la maladie, c'est que le vocabulaire diminue. Il peut diminuer pour plusieurs raisons. Dans Saint Thomas, on dit que le vocabulaire a diminué progressivement. Matisse a diminué aussi au point de vue artistique. Ça peut être le signe du génie, le signe de la folie. C'est quelquefois très proche. Mais c'est sûr que le vocabulaire d'un malade diminue. Il diminue. Alors Freud était très attentif à ça. Et je crois que c'est ça le génie de Freud. C'est là, c'est au début. C'est son intuition première. Après, il a systématisé et permis complètement son génie. Il est tombé dans l'idéologie. Mais on devrait reprendre son intuition première. Son intuition première est très très forte. Son intuition première, c'est que les malades avaient quelques idées, quelques mots. Alors il les a notés. Malade un tel, quelle idée. Alors à la place de revenir en demandant comment ça va, oui, t'as des gens comme ça, pas du tout. Il commençait à les dire les mots du malade. Et entrer dans le dialogue avec les mots du malade. C'est très très beau. Et par là, le malade répondait. c'est ce qu'il arrivait à dire. Alors, là, il y a une intuition qui est réelle. Mais à partir de là, l'idéologie a commencé. Le freudisme est un des lieux extraordinaires pour voir la naissance d'une idéologie. À partir d'une expérience qui est limitée, et parce qu'elle est limitée, elle n'est pas assez forte pour porter le poids de l'idéologie. Bon, alors, vous avez ensuite Nietzsche. L'idéologie nietzschéenne, c'est l'idéologie de la volonté de puissance. C'est une idéologie extraordinairement forte, intelligente. Nietzsche est mort fou, ça veut dire. Et le dernier mot de Nietzsche sur ses manuscrits. Nietzsche est un homme extraordinairement attachant. Je crois que ça devait être quelqu'un de très très attachant. Pour moi, Nietzsche m'émeut toujours dans le plus profond de mon cœur parce qu'il y avait en lui un homme qui avait soif d'absolu. Vous savez que Nietzsche, à 18 ans, écrivait des psaumes. Vraiment des psaumes. C'est un homme qui avait un sens de Dieu, un sens de la prière, un sens de la détresse de l'homme, un sens de l'Europe. Tous ceux qui étudient l'Europe devraient regarder Nietzsche. Je crois qu'il n'y a pas un homme qui a eu autant le sens de l'Europe que Nietzsche. Et quand Nietzsche dit « l'Europe est chrétienne », l'Europe, devenant athée, se détruit elle-même. Qu'est-ce qu'il y aura ? Alors Nietzsche a eu tellement peur de l'athéisme qu'il est tombé dans le panneau. Alors certains soutiennent que Nietzsche n'était pas athée. C'est possible, parce que justement, il y a toujours eu chez Nietzsche deux points de vue. Et ça a peut-être été le grand salut de Nietzsche de mourir fou. On ne sait pas ce qui se passe, hein. Dieu est au-dessus du génie et de la folie. Et alors Dieu rattrape les poissons souterrains. Et il rattrape à travers cette espèce de folie pour les hommes. Mais vous savez, les pygmées font ça. Les pygmées font ça admirablement. Mais les pygmées ne veulent pas la société. Ils sont nietzschéens par nature. Et ils expriment leur nietzschéisme d'une façon qui soit très réaliste par la danse. Et ils sont des potiers. Alors ils vont vendre leurs choses. J'ai vu ça au Rwanda, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai essayé de... Parce que il y a tellement plus peu de gens comme ça encore aujourd'hui. Et alors, ils veulent couper de la société. Ils n'aiment pas la société. Il reste des gens en dehors de la société. Vous voyez, anarchiques, à leur manière, ayant leur propre société. Alors ils dansent admirablement, merveilleusement, parce que naturellement. Et ils apparaissent comme fous. Pour ne pas entrer en communauté avec dans le point de vue des formes. C'est une illustration très très jolie. Eh bien, je crois que Dieu a permis la folie de Nietzsche pour le rattraper. Parce que je crois qu'en effet, qu'il y avait toujours chez lui une espèce d'aspiration. Il a eu peur de l'athéisme. Alors, il est tombé dedans. Pour ne pas être en retard. On a toujours peur hein, quand on vous dit la suprême injure qu'on peut faire à un théologien aujourd'hui. Vous êtes naïf. C'est la suprême injure. Non. Vous êtes en retard. Bon, je crois que Nietzsche a eu très peur d'être en retard. Alors il a foncé. L'Europe devenait athée, soyons le leader de l'athéisme. Oui. Et c'est cette peur, mais dans le fond de son cœur, il ne l'était pas. Il l'était dialectiquement. Curieux, ces hommes qui ont eu cette attitude. Nietzsche a eu une très très grosse influence, on ne peut pas le dire. L'influence sur le nazisme. Et aujourd'hui, on pourrait dire l'influence sur la philosophie de droite. Je crois, la droite païenne, elle est nietzschéenne. Nietzsche revient à la Grèce. Il revient à Dionysios et à Apollon. C'est les dieux païens. Il revient aux dieux païens. Lui qui avait compris ce que c'était que le Christ, il revient aux dieux païens. Et il revient aux dieux païens, vous comprenez pourquoi. C'est la chose terrible. On revient aux dieux païens pour sauvegarder la liberté de l'homme. L'immense avantage des dieux païens, c'est qu'on les choisit. Tandis que le dieu chrétien, on ne choisit pas. On doit l'adorer. Tandis que les dieux païens, on les choisit. Alors on se les fait, les dieux, on devient un propagandiste de ces dieux. Vous voyez, jusqu'où va l'idéologie ? Jusqu'à corrompre la tradition religieuse et faire que le dieu vers lequel on va, eh bien, c'est le nôtre. C'est important, très important. Et au fond, on est imprégné de ça. Les jeunes d'aujourd'hui, faut voir combien ils sont imprégnés. L'idéologie de Sartre. On pourrait mettre Sartre et Heidegger, d'une certaine manière, mais j'aime mieux prendre Sartre parce qu'elle est plus nette. C'est plus clair. L'idéologie de Sartre, c'est l'exaltation de la liberté. C'est pas le libéralisme. Le libéralisme serait du côté du positivisme. Mais pas du tout du côté de Sartre. Parce que Sartre, c'est la liberté prise comme absolue, mais il y a des liens avec tout ça. Alors Sartre, c'est aussi la dialectique. Une dialectique qui fait que l'homme disparaît, puisque l'homme est une passion inutile. L'autre devient l'ennemi. Vous avez, après l'évolutionnisme absolu, ça c'est le point de vue, c'est né du point de vue biologique. Il y aurait toute une série. William Huxley, le petit fils du grand, il est dans cette position, c'est peut-être un de ceux qui l'exprime de la manière la plus forte. Et d'une certaine manière, vous voyez, quand on établit l'évolution, dans une position philosophique d'évolutionnisme absolu, où la vie ne peut exister que dans l'évolution. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, on est uniquement l'homme d'un moment. Et le tout, c'est d'être l'homme d'un moment. Vous voyez, descendre le fleuve. Alors ça, c'est vraiment la descente du fleuve. C'est la descente du torrent. Il faut être accueilli. C'est surtout être au bon moment de notre époque. Alors, septième forme, le néo-hégélianisme. Ça, c'est très sélect. On revient à un certain positivisme mathématique, c'est Hamelin, en France, c'est très sélect. Le néo-hégélianisme, cette reprise de l'hégélianisme, vous savez, cette manière très particulière, c'est très proche des autres, et pourtant il y a quelque chose de particulier. Et la dernière forme, elle est allemande, c'est la forme de Hartmann, c'est une espèce d'idéologie de la responsabilité. C'est très cru. Hartmann, Bopin influence énorme en France, mais au fond, c'est en opposition violente avec Sartre. Juste opposé. C'était avant, du reste. Mais c'est juste opposé. Parce que pour Sartre, il faut que Dieu n'existe pas pour que l'homme soit responsable. La responsabilité. Et alors, il y a quelque chose d'analogue, mais en même temps très opposé, c'est que toute l'éthique d'Hartmann repose sur cette responsabilité de l'homme. Et c'est une idéologie de la responsabilité. Je crois que ce sont les huit grandes formes d'idéologie qui toutes aboutissent à l'athéisme. Je crois qu'une véritable idéologie ne peut être qu'athée. Ça, c'est ma position philosophique. On peut le montrer assez facilement. Parce que si Dieu existe, il n'est pas une idée. Vous voyez ? Et dans l'évolutionnisme, dans l'idéologie de l'évolutionnisme absolu, c'est dit textuellement. Si Dieu existe, il est la vie. Et donc la vie n'est plus en évolution. Dieu est l'absolu. Donc il est au-delà. Alors vous relativisez l'idéologisme. Les véritables idéologies veulent un absolu à l'intérieur même de l'idéologie. Et donc, toutes exaltent l'homme sous un aspect, ils exaltent l'homme sous un aspect, et ils exaltent l'humanité. Toute l'humanité. Et c'est toujours l'exaltation d'un aspect de l'homme, d'une qualité de l'homme, mais pas de la personne humaine, d'une qualité de l'homme. Alors, on peut peut-être arrêter maintenant, si vous voulez, et puis on prendra pour nous. Ça a régné, on ne peut pas nier ça. Et que la science était rejetée. Et donc, en régnant de cette manière-là, et en abusant de son pouvoir, il y a eu un abus du pouvoir de la philosophie. Ça, je crois qu'on doit le reconnaître. Et ça a été très vite, ça. Dès le platonisme. Platon voulait que le philosophe soit roi. Or, le philosophe n'a aucun titre à devenir roi. tout au plus conseiller du roi. Enfin, mais c'est exactement, c'est sûr, conseiller du roi, oui, parce qu'il peut réfléchir, il peut. Vous savez, c'est la fameuse phrase d'Aristote que j'aime beaucoup, quand il dit « Les mathématiques sont la science spéculative par excellence. Les mathématiques se sont développées en Égypte grâce aux prêtres, à la secte sacerdotale, à la caste sacerdotale, qui avait beaucoup de loisirs. » Les mathématiques sont nées en Égypte grâce à la caste sacerdotale qui avait beaucoup de loisirs. Il faut beaucoup de loisirs pour être philosophe. C'est évident. En tant que religieux, j'ai beaucoup de loisirs. Plus maintenant, j'en ai eu. Et alors, il faut beaucoup de temps pour être philosophe. Il faut du temps, il faut du recul surtout. Beaucoup de recul. Et au fond, c'est un grand luxe, le recul. Pouvoir prendre du recul, c'est pas comme ça. Ah oui, c'est ça, c'est nécessaire. Donc la philosophie a régné. Et plutôt que d'aider l'homme, elle est devenue quelque chose qui a dominé. Le philosophe qui veut devenir roi n'est pas précisément toujours ce que porte la philosophie. Et alors, il y a une vengeance de la connaissance scientifique dans le positivisme. Je crois que c'est très important de regarder que toutes ces idéologies, ce sont des revendications. Elles se sont toutes nées de revendications pour libérer quelque chose. Libérer dans l'homme la connaissance scientifique. Redonner à la connaissance scientifique son absolu. Ça, c'est très net dans le positivisme. Dans le marxisme, nous savons bien le travail. On a poussé le travail contre le capitalisme. Mais le capitalisme, c'est la grande force. Le capitalisme meurtrit l'homme travailleur. On ne regarde que le capitalisme, que le capital, sans regarder l'homme travailleur. Donc exaltons l'homme travailleur. Et la séduction du capitalisme, c'est ça. Et on le sait très bien. C'est quand le travailleur n'est plus marxiste qu'ils sont le plus ennuyés. Pour le cas de la Pologne. C'est ça le point de vue qui les marque le plus. Parce que quand c'est le patron, ça n'a pas une espèce d'importance. Que le patron soit pas marxiste, c'est évident. Mais quand un ouvrier n'est plus marxiste, ça c'est le meurtrier. Parce que ça veut être la philosophie du travail et du travailleur. Et du travailleur, je dis évidemment. Alors c'est l'exaltation de la praxis. Exalter dans l'homme la dimension du travailleur. Et ramener tout l'homme à la dimension du travailleur. Le freudisme va lui s'attaquer à l'éducation. L'éducation qui a exalté l'autorité paternelle. Le pater familial. Le vieux pater familias romain. Le vieux pater familias romain qui a été gardé et qui a été la source de ce que représentait l'éducation. Eh bien, le freudisme s'attaque violemment à cette autorité paternelle. On a dit, Freud a tué le père et l'autorité paternelle. C'est vrai. Freud a tué le père et l'autorité paternelle. Et les néo-freudiens aujourd'hui tuent la mère. Il y a un freudisme, j'oublie toujours son nom, mais ça va me revenir tout à l'heure peut-être. C'est un néo-freudien qui veut être plus freudien que Freud, comme on veut être plus royaliste que le roi. Et ce néo-freudien qui habite tout près de Neuchâtel veut fonder un institut à Genève qui, de fait, tuera chez l'enfant le lien avec la mère. Considérant que le lien avec la mère, c'est la chose la plus perfide qui soit. Le lien avec Freud, c'est le lien avec le père, c'est l'autorité paternelle. Alors, qu'est-ce qu'il exalte? Freud exalte l'inconscient. Freud, ça va très loin. Ça va très très loin, Freud. Lui aussi, il n'a pas de couleur politique. Il n'a qu'une couleur antifamiliale. Freud tue la famille. Enfin, si on est freudien, on ne peut pas être dans la famille. Et tous les freudiens tuent la famille. Parce qu'ils tuent l'autorité du père. Qui est des abus dans l'autorité du père, qui est des abus du côté de l'amour maternel, c'est bien évident, on est tous d'accord. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on doit tuer l'autorité du père, qu'on doit tuer la mère. Alors faire de l'enfant, vous voyez, un orphelin. Et alors on tombe dans l'inconscient, c'est ça. C'est très curieux. Freud, c'est l'exaltation de l'inconscient. C'est l'exaltation de ce qui est dans l'homme, l'instinct. Parce qu'au fond, en définitive, c'est l'instinct sexuel, l'inconscient qu'on doit libérer. Nietzsche, lui, s'oppose aussi, alors pas, c'est pas pour l'éducation, Nietzsche s'oppose à la morale kantienne. C'est la morale de Kant. Il ne faut pas oublier d'être allemand. La morale de Kant, en Allemagne, ça a tout gagné. La morale de Kant, c'est l'impératif catégorique. L'impératif catégorique, il faut faire cela. Et quand je dis il faut faire cela, quand le réveil sonne le matin parce que je dois être là à telle heure, à mon bureau, c'est l'impératif catégorique. L'impératif catégorique, il est lié directement avec Dieu, pour Kant. Parce que c'est par l'impératif catégorique que je vois Dieu intervenir dans ma vie. C'est la morale du devoir, si vous voulez, mais poussée à l'extrême. C'est poussé à l'extrême. C'est la morale du devoir qui devient sacrée. Alors Nietzsche ne peut pas supporter ça. Il faut libérer l'homme de sa morale du devoir. Il faut libérer l'homme de la morale du devoir. Il faut libérer l'homme de cet impératif catégorique de Kant. Et on va le libérer en comprenant que l'homme est au-dessus de cette morale. C'est lui-même qui est la créativité. Vous voyez le mot de la créativité aujourd'hui, la créativité en liturgie. La créativité partout. Faites un séminaire de créativité, vous aurez une foule de gens